Honoré de Balzac, Le cousin Ponce. Vers 3 heures de l'après-midi, dans le mois d'octobre de l'année 1844, un homme, âgé d'une 60aine d'années, mais à qui tout le monde eût donné plus que cet âge, allait le long du boulevard des Italiens, le nez à la piste, les lèvres papelardes, comme un négociant qui vient de conclure une excellente affaire, ou comme un garçon content de lui-même au sortir d'un boudoir. C'est à Paris la plus grande expression connue de la satisfaction personnelle chez l'homme. En apercevant de loin ce vieillard, les personnes qui sont là tous les jours assises sur des chaises, livrées au plaisir d'analyser les passants, laissaient toutes poindre dans leur physionomie ce sourire particulier aux gens de Paris, et qui dit tant de choses ironiques, moqueuses ou compatissantes, mais qui, pour animer le visage d'un Parisien, blasé sur tous les spectacles possibles, exige de hautes curiosités vivantes. Un mot fera comprendre, et la valeur archéologique de ce bonhomme, et la raison du sourire, qui se répétait comme un écho dans tous les yeux. On demandait à Hyacinthe, un acteur célèbre par ses saillies, où il faisait faire les chapeaux à la vue desquels la salle pouffe de rire. « Je ne les fais point faire, je les garde, » répondit-il. « Eh bien, il se rencontre dans le million d'acteurs qui composent la grande troupe de Paris, des Hyacinthes sans le savoir, qui gardent sur eux tous les ridicules d'un temps et qui vous apparaissent comme la personnification de toute une époque pour vous arracher une bouffée de gaieté quand vous vous promenez en dévorant quelques chagrins amers causés par la trahison d'un ex-ami. » En conservant dans quelques détails de sa mise une fidélité quand même au mode de l'an 1806, ce passant rappelait l'Empire sans être par trop caricature. Pour les observateurs, cette finesse rend ces sortes d'évocations extrêmement précieuses. Mais cet ensemble de petites choses voulait l'attention analytique dont sont doués les connaisseurs en flânerie. Et pour exciter le rire à distance, le passant devait offrir une de ces énormités à crever les yeux, comme on dit, et que les acteurs recherchent pour assurer le succès de leur rentrée. Ce vieillard, sec et maigre, portait un Spencer couleur noisette sur un habit verdâtre à boutons de métal blanc. Un homme en Spencer, en 1844, c'est, voyez-vous, comme si Napoléon eût daigné ressusciter pour 2 heures. Le Spencer fut inventé, comme son nom l'indique, par un lord, sans doute vain de sa jolie taille. Avant la paix d'Amiens, cet Anglais avait résolu le problème de couvrir le buste sans assommer le corps par le poids de cet affreux carrick qui finit aujourd'hui sur le dos des vieux cochers de fiacre. Mais, comme les fines tailles sont en minorité, la mode du Spencer pour homme n'eut en France qu'un succès passager, quoique ce fût une invention anglaise. À la vue du Spencer, les gens de 40 à 50 ans revêtaient par la pensée ce monsieur de bottes à revers, d'une culotte de casimir vert pistache à nœuds de ruban, et se revoyaient dans le costume de leur jeunesse. Les vieilles femmes se remémoraient leurs conquêtes. Quant aux jeunes gens, ils se demandaient pourquoi ce vieil Alcibiade avait coupé la queue à son paletot. Tout concordait si bien à ce Spencer que vous n'eussiez pas hésité à nommer ce passant un homme en pire, comme on dit, un meuble en pire. Mais il ne symbolisait l'Empire que pour ceux à qui cette magnifique et grandiose époque est connue, au moins de visu. Car il exigeait une certaine fidélité de souvenir quant aux modes. L'Empire est déjà si loin de nous que tout le monde ne peut pas se le figurer dans sa réalité gallo-grecque. Le chapeau mis en arrière découvrait presque tout le front avec cette espèce de crânerie par laquelle les administrateurs et les Pékins essayèrent alors de répondre à celle des militaires. C'était d'ailleurs un horrible chapeau de soie à 14 francs, aux bords intérieurs duquel de hautes et larges oreilles imprimaient des marques blanchâtres, vainement combattues par la brosse. Le tissu de soie mal appliqué, comme toujours, sur le carton de la forme, se plissait en quelques endroits et semblait être attaqué de la lèpre, en dépit de la main qui le pansait tous les matins. Sous ce chapeau, qui paraissait près de tomber, s'étendait une de ces figures falotes et drôlatiques comme les Chinois seuls en savent inventer pour leurs magots. Ce vaste visage, percé comme une écumoire, où les trous produisaient des ombres, et refouillé comme un masque romain, démentait toutes les lois de l'anatomie. Le regard n'y sentait point la charpente. Là où le dessin voulait des os, la chair offrait des méplats gélatineux. Et là où les figures présentent ordinairement des creux, celles-là se contournaient en bosses flasques. Cette face grotesque, écrasée en forme de potiron, attristée par des yeux gris surmontés de deux lignes rouges au lieu de sourcils, était commandée par un nez à la Don Quichotte, comme une plaine est dominée par un bloc erratique. Ce nez exprime, ainsi que Cervantes avait dû le remarquer, une disposition naïve à ce dévouement aux grandes choses qui dégénèrent en duperie. Cette laideur, poussée tout au comique, n'excitait cependant point le rire. La mélancolie excessive qui débordait par les yeux pâles de ce pauvre homme atteignait le moqueur et lui glaçait la plaisanterie sur les lèvres. On pensait aussitôt que la nature avait interdit à ce bonhomme d'exprimer la tendresse, sous peine de faire rire une femme ou de l'affliger. Le Français se tait devant ce malheur, qui lui paraît le plus cruel de tous les malheurs. Ne pouvoir plaire. Cet homme, si disgracié par la nature, était mis, comme le sont les pauvres de la bonne compagnie, à qui les riches essaient assez souvent de ressembler. Il portait des souliers cachés par des guêtres, faite sur le modèle de celle de la garde impériale, et qui lui permettait sans doute de garder les mêmes chaussettes pendant un certain temps. Son pantalon en drap noir présentait des reflets rougeâtres, et sur les plis des lignes blanches ou luisantes, qui, non moins que la façon, assignaient à 3 ans la date de l'acquisition. L'ampleur de ce vêtement déguisait assez mal une maigreur, provenue plutôt de la constitution que d'un régime pythagoricien. Car le bonhomme, doué d'une bouche sensuelle à lèvres lipues, montrait en souriant des dents blanches dignes d'un requin. Le gilet à châle, également en drap noir, mais doublé d'un gilet blanc sous lequel brillait en 3e ligne le bord d'un tricot rouge, vous remettez en mémoire les saints gilets de Gara. Une énorme cravate en mousseline blanche, dont le nœud prétentieux avait été cherché par un beau pour charmer les femmes charmantes de 1809, dépassait si bien le menton que la figure semblait s'y plonger comme dans un abîme. Un cordon de soie tressé, jouant les cheveux, traversait la chemise et protégeait la montre contre un vol improbable. L'habit verdâtre, d'une propreté remarquable, comptait quelque 3 ans de plus que le pantalon. Mais le collet en velours noir et les boutons en métal blanc récemment renouvelés trahissaient les soins domestiques poussés jusqu'à la minutie. Cette manière de retenir le chapeau par l'occiput, le triple gilet, l'immense cravate où plongeait le menton, les guêtres, les boutons de métal sur l'habit verdâtre, tous ces vestiges des modes impériales s'harmonisaient aux parfums arriérés de la coquetterie des incroyables, à je ne sais quoi de menu dans les plis, de correct et de sec dans l'ensemble, qui sentait l'école de David, qui rappelait les meubles grêles de Jacob. On reconnaissait d'ailleurs à la première vue un homme bien élevé, en proie à quelques vices secrets, ou l'un de ces petits rentiers, dont toutes les dépenses sont si nettement déterminées par la médiocrité du revenu, qu'une vitre cassée, un habit déchiré, ou la peste philanthropique d'une quête, suppriment leur menu plaisir pendant un mois. Si vous eussiez été là, vous vous seriez demandé pourquoi le sourire animait cette figure grotesque, dont l'expression habituelle devait être triste et froide, comme celle de tous ceux qui luttent obscurément pour obtenir les triviales nécessités de l'existence. Mais en remarquant la précaution maternelle avec laquelle ce vieillard singulier tenait de sa main droite un objet évidemment précieux, sous les deux basques gauches de son double habit pour le garantir des chocs imprévus, en lui voyant surtout l'air affairé que prennent les oisifs chargés d'une commission, vous l'auriez soupçonné d'avoir retrouvé quelque chose d'équivalent au bichon d'une marquise, et de la porter triomphalement avec la galanterie empressée d'un homme en pire, à la charmante femme de 60 ans qui n'a pas encore su renoncer à la visite journalière de son attentif. Paris est la seule ville du monde où vous rencontriez de pareils spectacles, qui font de ces boulevards un drame continu joué gratis pour les Français, au profit de l'art. D'après le galbe de cet homme osseux, et malgré son hardi Spencer, vous l'eussiez difficilement classé parmi les artistes parisiens, nature de convention dont le privilège, assez semblable à celui du gamin de Paris, est de réveiller dans les imaginations bourgeoises les jovialités les plus mirobolantes, puisqu'on a remis en honneur ce vieux mot drôlatique. Ce passant était pourtant un grand prix, l'auteur de la première cantate couronnée à l'Institut, lors du rétablissement de l'Académie de Rome. Enfin, Monsieur Sylvain Ponce, l'auteur de célèbres romances roucoulées par nos mères, de deux ou trois opéras joués en 1815 et 1816, puis de quelques partitions inédites. Ce digne homme finissait chef d'orchestre à un théâtre des boulevards. Il était, grâce à sa figure, professeur dans quelques pensionnats de demoiselles, et n'avait pas d'autres revenus que ses appointements et ses cachets. Courir le cachet à cet âge! Combien de mystères dans cette situation peu romanesque! Ce dernier porte-Spencer portait donc sur lui plus que les symboles de l'Empire. Il portait encore un grand enseignement écrit sur ses trois gilets. Il montrait gratis une des nombreuses victimes du fatal et funeste système nommé concours qui règne encore en France après 100 ans de pratique sans résultat. Cette presse des intelligences fut inventée par Poisson de Marigny, le frère de Madame de Pompadour, nommé, vers 1746, directeur des Beaux-Arts. Or, tâchez de compter sur vos doigts les gens de génie fournis depuis un siècle par les lauréats. D'abord, jamais aucun effort administratif ou scolaire ne remplacera les miracles du hasard auxquels on doit les grands hommes. C'est, entre tous les mystères de la génération, le plus inaccessible à notre ambitieuse analyse moderne. Puis, que penseriez-vous des Égyptiens qui, dit-on, inventèrent des fours pour faire éclore des poulets, s'ils n'eussent point immédiatement donné la béquée à ces mêmes poulets? Ainsi se comporte cependant la France, qui tâche de produire des artistes par la serre chaude du concours, et, une fois le statuaire, le peintre, le graveur, le musicien obtenu par ce procédé mécanique, elle ne s'en inquiète pas plus que le dandy ne se soucie le soir des fleurs qu'il a mises à sa boutonnière. Il se trouve que l'homme de talent est Greuze ou Watteau, Félicien David ou Pagnosi, Géricault ou Decamps, Aubert ou David d'Angers, Eugène Delacroix ou Meissonnier. Gens peu soucieux des grands prix et poussés en pleine terre sous les rayons de ce soleil invisible nommé la vocation. Envoyé par l'État à Rome pour devenir un grand musicien, Sylvain Ponce en avait rapporté le goût des antiquités et des belles choses d'art. Il se connaissait admirablement en tous ses travaux, chef-d'œuvre de la main et de la pensée, compris depuis peu dans ce mot populaire, le bric-à-brac. Cet enfant de Terpes revint donc à Paris vers 1810, collectionneur féroce, chargé de tableaux, de statuettes, de cadres, de sculptures en ivoire, en bois, d'émaux, porcelaines, etc., qui, pendant son séjour académique à Rome, avait absorbé la plus grande partie de l'héritage paternel, autant par les frais de transport que par les prix d'acquisition. Il avait employé de la même manière la succession de sa mère durant le voyage qu'il fit en Italie, après ses 3 ans officiels passés à Rome. Il voulut visiter à loisir Venise, Milan, Florence, Bologne, Naples, séjournant dans chaque ville en rêveur, en philosophe, avec l'insouciance de l'artiste, qui, pour vivre, compte sur son talent, comme les filles de joie comptent sur leur beauté. Ponce fut heureux pendant ce splendide voyage, autant que pouvait l'être un homme plein d'âme et de délicatesse, à qui sa laideur interdisait des succès auprès des femmes, selon la phrase consacrée en 1809, et qui trouvait les choses de la vie toujours au-dessous du type idéal qu'il s'en était créé. Mais il avait pris son parti sur cette discordance entre le son de son âme et les réalités. Ce sentiment du beau, conservé pur et vif dans son cœur, fut sans doute le principe des mélodies ingénieuses, fines, pleines de grâce, qui lui valurent une réputation de 1810 à 1814. Toute réputation qui se fonde en France sur la vogue, sur la mode, sur les folies éphémères de Paris, produit des Ponces. Il n'est pas de pays où l'on soit si sévère pour les grandes choses et si dédaigneusement indulgent pour les petites. Bientôt noyé dans les flots d'harmonie allemande et dans la production rossinienne, si Ponce fut encore, en 1824, un musicien agréable et connu par quelques dernières romances, jugé de ce qu'il pouvait être en 1831. Aussi, en 1844, l'année où commença le seul drame de cette vie obscure, Sylvain Ponce avait-il atteint à la valeur d'une croche antédiluvienne. Les marchands de musique ignoraient complètement son existence. Quoi qu'il fît à des prix médiocres, la musique de quelques pièces à son théâtre et au théâtre voisin. Ce bonhomme rendait d'ailleurs justice au fameux maître de notre époque. Une belle exécution de quelques morceaux d'élite le faisait pleurer. Mais sa religion n'arrivait pas à ce point où elle frise la manie, comme chez les Chrysler d'Hoffmann. Il n'en laissait rien paraître. Il jouissait en lui-même à la façon des Hatchichins ou des Teriakis. Le génie de l'admiration, de la compréhension, la seule faculté par laquelle un homme ordinaire devient le frère d'un grand poète, est si rare à Paris, où toutes les idées ressemblent à des voyageurs passant dans une hôtellerie, que l'on doit accorder à Ponce une respectueuse estime. Le fait de l'insuccès du bonhomme peut sembler exorbitant, mais il avouait naïvement sa faiblesse relativement à l'harmonie. Il avait négligé l'étude du contrepoint, et l'orchestration moderne, grandie outre mesure, lui parut inabordable au moment où, par de nouvelles études, il aurait pu se maintenir parmi les compositeurs modernes, devenir, non pas Rossini, mais Hérold. Enfin, il trouva dans les plaisirs du collectionneur de si vives compensations à la faillite de la gloire que s'il lui eût fallu choisir entre la possession de ses curiosités et le nom de Rossini, le croirait-on, Ponce aurait opté pour son cher cabinet. Le vieux musicien pratiquait l'axiome de Chenavard, le savant collectionneur de gravures précieuses qui prétend qu'on ne peut avoir de plaisir à regarder un Ruisdael, un Obéma, un Holbein, un Raphaël, un Murillo, un Greuze, un Sébastien del Piombo, un Giorgione, un Albert Durer, qu'autant que le tableau n'a coûté que 50 francs. Ponce n'admettait pas d'acquisition au-dessus de 100 francs. Et pour qu'il payât un objet 50 francs, cet objet devait en valoir 3 000. La plus belle chose du monde, qui coûtait 300 francs, n'existait plus pour lui. Rares avaient été les occasions, mais il possédait les 3 éléments du succès. Les jambes du cerf, le temps des flâneurs et la patience de l'israélite. Ce système, pratiqué pendant 40 ans, à Rome comme à Paris, avait porté ses fruits. Après avoir dépensé, depuis son retour de Rome, environ 2 000 francs par an, Ponce cachait à tous les regards une collection de chefs-d'œuvre, en tout genre, dont le catalogue atteignait au fabuleux numéro 1907. De 1811 à 1816, pendant ses courses à travers Paris, il avait trouvé pour 10 francs ce qui se paye aujourd'hui 1 000 à 1 200 francs. C'étaient des tableaux triés dans les 45 000 tableaux qui s'exposent par an dans les ventes parisiennes. Des porcelaines de Sèvres, pâtes tendres, achetées chez les Auvergnats, ces satellites de la bande noire, qui ramenaient sur des charrettes les merveilles de la France Pompadour. Enfin, il avait ramassé les débris du XVIIe et du XVIIIe siècle, en rendant justice aux gens d'esprit et de génie de l'école française, ces grands inconnus, les Lepautre, les Lavallée-Poussin, etc., qui ont créé le genre Louis XV, le genre Louis XVI, et dont les œuvres défraient aujourd'hui les prétendues inventions de nos artistes, incessamment courbés sur les trésors du cabinet des estampes pour faire du nouveau en faisant d'adroits pastiches. Ponce devait beaucoup de morceaux à ces échanges, bonheur ineffable des collectionneurs. Le plaisir d'acheter des curiosités n'est que le second. Le premier, c'est de les brocanter. Le premier, Ponce avait collectionné les tabatières et les miniatures. Sans célébrité dans la bric-à-brocologie, car il ne hantait pas les ventes, il ne se montrait pas chez les illustres marchands. Ponce ignorait la valeur vénale de son trésor. Feu du Zomerard avait bien essayé de se lier avec le musicien. Mais le prince du bric-à-brac mourut sans avoir pu pénétrer dans le musée Ponce, le seul qui put être comparé à la célèbre collection Sauvageot. Entre Ponce et M. Sauvageot, il se rencontrait quelques ressemblances. M. Sauvageot, musicien comme Ponce, sans grande fortune aussi, a procédé de la même manière, par les mêmes moyens, avec le même amour de l'art, avec la même haine contre ces illustres riches qui se font des cabinets pour faire une habile concurrence aux marchands. De même que son rival, son émule, son antagoniste pour toutes ses œuvres de la main, pour ses prodiges du travail, Ponce se sentait au cœur une avarice insatiable, l'amour de l'amant pour une belle maîtresse. Et la revente, dans les salles de la rue des jeûneurs, au coup de marteau des commissaires-priseurs, lui semblait un crime de lèse bric-à-brac. Il possédait son musée pour en jouir à toute heure, car les âmes créées pour admirer les grandes œuvres ont la faculté sublime des vrais amants. Ils éprouvent autant de plaisir aujourd'hui qu'hier. Ils ne se lassent jamais, et les chefs-d'œuvre sont, heureusement, toujours jeunes. Aussi, l'objet tenu si paternellement devait-il être une de ces trouvailles que l'on emporte. Avec quel amour, amateur, vous le savez. Au premier contour de cette esquisse biographique, tout le monde va s'écrier. Voilà, malgré sa laideur, l'homme le plus heureux de la terre. En effet, aucun ennui, aucun spleen ne résiste au moxa qu'on se pose à l'âme en se donnant une manie. Vous tous qui ne pouvez plus boire à ce que, dans tous les temps, on a nommé la coupe du plaisir, prenez à tâche de collectionner quoi que ce soit. On a collectionné des affiches, et vous retrouverez le lingot du bonheur en petite monnaie. Une manie, c'est le plaisir passé à l'état d'idée. Néanmoins, n'enviez pas le bonhomme Ponce. ce sentiment reposerait, comme tous les mouvements de ce genre, sur une erreur. Cet homme, plein de délicatesse, dont l'âme vivait par une admiration infatigable pour la magnificence du travail humain, cette belle lutte avec les travaux de la nature, était l'esclave de celui des sept péchés capitaux que Dieu doit punir le moins sévèrement. Ponce était gourmand. Son peu de fortune et sa passion pour le bric-à-brac lui commandaient un régime diététique tellement en horreur avec sa gueule fine que le célibataire avait tout d'abord tranché la question en allant dîner tous les jours en ville. Or, sous l'Empire, on eut bien plus que de nos jours un culte pour les gens célèbres, peut-être à cause de leur petit nombre et de leur peu de prétentions politiques. On devenait poète, écrivain, musicien, à si peu de frais. Ponce, regardé comme le rival probable des Niccolo, des Paër et des Berton, reçut alors tant d'invitations qu'il fut obligé de les écrire sur un agenda, comme les avocats écrivent leurs causes. Se comportant d'ailleurs en artiste, il offrait des exemplaires de ses romances à tous ses amphitryons. Il touchait le forte chez eux. Il leur apportait des loges à Phédo, théâtre pour lequel il travaillait. Il y organisait des concerts. Il jouait même quelquefois du violon chez ses parents en improvisant un petit bal. Les plus beaux hommes de la France échangeaient en ce temps-là des coups de sabre avec les plus beaux hommes de la coalition. La laideur de Ponce s'appela donc originalité, d'après la grande loi promulguée par Molière dans le fameux couplet d'Éliante. Quand il avait rendu quelque service à quelque belle dame, il s'entendit appeler quelquefois un homme charmant, mais son bonheur n'alla jamais plus loin que cette parole. Pendant cette période, qui dura 6 ans environ, de 1810 à 1816, Ponce contracta la funeste habitude de bien dîner, de voir les personnes qu'il invitait se mettant en frais, se procurant des primeurs, débouchant leurs meilleurs vins, soignant le dessert, le café, les liqueurs, et le traitant de leur mieux, comme on traitait sous l'Empire, où beaucoup de maisons imitaient les splendeurs des rois, des reines, des princes dont regorgeait Paris. On jouait beaucoup alors à la royauté, comme on joue aujourd'hui à la Chambre en créant une foule de sociétés à président, vice-président et secrétaire. Sociétés linéaires, vinicoles, séricicoles, agricoles, de l'industrie, etc. On est arrivé jusqu'à chercher des plaies sociales pour constituer les guérisseurs en société. Un estomac dont l'éducation se fait ainsi réagit nécessairement sur le moral et le corrompt en raison de la haute sapience culinaire qu'il acquiert. La volupté, tapie dans tous les plis du cœur, y parle en souveraine. Elle bat en brèche la volonté, l'honneur. Elle veut à tout prix sa satisfaction. On n'a jamais peint les exigences de la gueule. Elles échappent à la critique littéraire par la nécessité de vivre. Mais on ne se figure pas le nombre des gens que la table a ruinés. La table est, à Paris, sous ce rapport, l'émule de la courtisane. C'est d'ailleurs la recette dont celle-ci est la dépense. Lorsque, d'invité perpétuel, Ponce arriva, par sa décadence comme artiste, à l'état de pique-assiette, il lui fut impossible de passer de ses tables si bien servies au brouet lacédémonien d'un restaurant à 40 sous. Hélas, il lui prit des frissons en pensant que son indépendance tenait à de si grands sacrifices, et il se sentit capable des plus grandes lâchetés pour continuer à bien vivre, à savourer toutes les primeurs à leur date, enfin à gobichonner, mot populaire mais expressif, de bons petits plats soignés. Oiseau picoreur, s'enfuyant le gosier plein et gazouillant un air pour tout remerciement, Ponce éprouvait d'ailleurs un certain plaisir à bien vivre aux dépens de la société qui lui demandait, quoi ? De la monnaie de singe. habitués, comme tous les célibataires qui ont le chez-soi en horreur et qui vivent chez les autres, à ces formules, à ces grimaces sociales par lesquelles on remplace les sentiments dans le monde, ils se servaient des compliments comme de menus monnaie, et à l'égard des personnes, ils se contentaient des étiquettes, sans plonger une main curieuse dans les sacs. Cette phase assez supportable dura 10 autres années. Mais quelles années ! Ce fut un automne pluvieux. Pendant tout ce temps, Ponce se maintint gratuitement à table, en se rendant nécessaire dans toutes les maisons où il allait. Il entra dans une voie fatale, en s'acquittant d'une multitude de commissions, en remplaçant les portiers et les domestiques dans maintes et maintes occasions. Préposé de bien des achats, il devint l'espion honnête et innocent détaché d'une famille dans une autre. Mais on ne lui sut aucun gré de tant de courses et de tant de lâchetés. « Ponce est un garçon, disait-on. Il ne sait que faire de son temps. Il est trop heureux de trotter pour nous. Que deviendrait-il ? » Bientôt se déclara la froideur que le vieillard répand autour de lui. Cette bise se communique, elle produit son effet dans la température morale, surtout lorsque le vieillard est laid et pauvre. N'est-ce pas être 3 fois vieillard ? Ce fut l'hiver de la vie, l'hiver au nez rouge, aux joues hâves, avec toutes sortes d'onglets. De 1836 à 1843, Ponce se vit invité rarement. Loin de rechercher le parasite, chaque famille l'acceptait comme on accepte un impôt. On ne lui tenait plus compte de rien, pas même de ses services réels. Les familles où le bonhomme accomplissait ses évolutions, toutes sans respect pour les arts, en adoration devant les résultats, ne prisaient que ce qu'elles avaient conquis depuis 1830, des fortunes ou des positions sociales éminentes. Or, Ponce n'ayant pas assez de hauteur dans l'esprit ni dans les manières pour imprimer la crainte que l'esprit ou le génie cause aux bourgeois, avait naturellement fini par devenir moins que rien, sans être néanmoins tout à fait méprisé. Quoi qu'il éprouvât dans ce monde de vive souffrance, comme tous les gens timides, il les taisait. Puis il s'était habitué par degrés à comprimer ses sentiments, à se faire de son cœur un sanctuaire où il se retirait. Ce phénomène, beaucoup de gens superficiels le traduisent par le mot « égoïsme ». La ressemblance est assez grande entre le solitaire et l'égoïste pour que les médisants paraissent avoir raison contre l'homme de cœur, surtout à Paris, où personne dans le monde n'observe, où tout est rapide comme le flot, où tout passe comme un ministère. Le cousin Ponce succomba donc sous un acte d'accusation d'égoïsme porté en arrière contre lui, car le monde finit toujours par condamner ceux qui l'accusent. Sait-on combien une défaveur imméritée accable les gens timides ? Qui peindra jamais les malheurs de la timidité ? Cette situation qui s'aggravait de jour en jour davantage explique la tristesse empreinte sur le visage de ce pauvre musicien qui vivait de capitulations infâmes. Mais les lâchetés que toute passion exige sont autant de liens. Plus la passion en demande, plus elle vous attache. Elle fait de tous les sacrifices comme un idéal trésor négatif où l'homme voit d'immenses richesses. Après avoir reçu le regard insolemment protecteur d'un bourgeois roide de bêtises, Ponce dégustait comme une vengeance le verre de vin de Porto, la caille au gratin qu'il avait commencé de savourer, se disant à lui-même « Ce n'est pas trop payé ». Aux yeux du moraliste, il se rencontrait cependant en cette vie des circonstances atténuantes. En effet, l'homme n'existe que par une satisfaction quelconque. Un homme sans passion, le juste parfait, est un monstre, un demi-ange qui n'a pas encore ses ailes. Les anges n'ont que des têtes dans la mythologie catholique. Sur terre, le juste, c'est l'ennuyeux grandisson pour qui la Vénus des carrefours elle-même se trouverait sans sexe. Or, excepté les rares et vulgaires aventures de son voyage en Italie, où le climat fut sans doute la raison de ses succès, Ponce n'avait jamais vu de femme lui sourire. Beaucoup d'hommes ont cette fatale destinée. Ponce était monstre-né. Son père et sa mère l'avaient obtenu dans leur vieillesse, et il portait les stigmates de cette naissance hors de saison sur son teint cadavéreux, qui semblait avoir été contracté dans le bocal d'esprit de vin où la science conserve certains foetus extraordinaires. Cet artiste, doué d'une âme tendre, rêveuse, délicate, forcé d'accepter le caractère que lui imposait sa figure, désespéra d'être jamais aimé. Le célibat fut donc chez lui moins un goût qu'une nécessité. La gourmandise, le péché des moines vertueux, lui tendit les bras. Il s'y précipita comme il s'était précipité dans l'adoration des œuvres d'art et dans son culte pour la musique. La bonne chère et le bric-à-brac furent pour lui la monnaie d'une femme, car la musique était son état. Et trouvez un homme qui aime l'état dont il vit. À la longue, il en est d'une profession comme du mariage, on n'en sent plus que les inconvénients. Brillat Savarin a justifié par parti pris les goûts des gastronomes. Mais peut-être n'a-t-il pas assez insisté sur le plaisir réel que l'homme trouve à table. La digestion, en employant les forces humaines, constitue un combat intérieur, qui, chez les gastrolâtres, équivaut aux plus hautes jouissances de l'amour. On sent un si vaste déploiement de la capacité vitale que le cerveau s'annule au profit du second cerveau, placé dans le diaphragme, et l'ivresse arrive par l'inertie même de toutes les facultés. Les boas, gorgés d'un taureau, sont si bien ivres qu'ils se laissent tuer. Passé 40 ans, quel homme ose travailler après son dîner? Aussi, tous les grands hommes ont-ils été sobres. Les malades en convalescence d'une maladie grave, à qui l'on mesure si chichement une nourriture choisie, ont pu souvent observer l'espèce de griserie gastrique causée par une seule aile de poulet. Le sage Ponce, dont toutes les jouissances étaient concentrées dans le jeu de son estomac, se trouvait toujours dans la situation de ses convalescents. Il demandait à la bonne chère toutes les sensations qu'elle peut donner, et il les avait jusqu'alors obtenues tous les jours. Personne n'ose dire adieu à une habitude. Beaucoup de suicides se sont arrêtés sur le seuil de la mort par le souvenir du café où ils vont jouer tous les soirs leur partie de domino. En 1835, le hasard vengea Ponce de l'indifférence du beau sexe. Il lui donna ce qu'on appelle, en style familier, un bâton de vieillesse. Ce vieillard de naissance trouva dans l'amitié un soutien pour sa vie. Il contracta le seul mariage que la société lui permit de faire. Il épousa un homme, un vieillard, un musicien comme lui. Sans la divine fable de La Fontaine, cette esquisse aurait eu pour titre « Les deux amis ». Mais n'eût-ce pas été comme un attentat littéraire, une profanation devant laquelle tout véritable écrivain reculera? Le chef-d'œuvre de notre fabuliste, à la fois la confidence de son âme et l'histoire de ses rêves, doit avoir le privilège éternel de ce titre. Cette page, au fronton de laquelle le poète a gravé ces trois mots, les deux amis, est une de ses propriétés sacrées, un temple où chaque génération entrera respectueusement et que l'univers visitera tant que durera la typographie. L'ami de Ponce était un professeur de piano, dont la vie et les mœurs sympathisaient si bien avec les siennes qu'il disait l'avoir connu trop tard pour son bonheur, car leur connaissance, ébauché à une distribution de prix dans un pensionnat, ne datait que de 1834. Jamais peut-être deux âmes ne se trouvèrent si pareilles dans l'océan humain qui prit sa source au paradis terrestre contre la volonté de Dieu. Ces deux musiciens devinrent en peu de temps l'un pour l'autre une nécessité. Réciproquement confidant l'un de l'autre, ils furent en 8 jours comme 2 frères. Enfin, Schmuck ne croyait pas plus qu'il pût exister un Ponce que Ponce ne se doutait qu'il existât un Schmuck. Déjà, ceci suffirait à peindre ces deux braves gens. Mais toutes les intelligences ne goûtent pas les brièvetés de la synthèse. Une légère démonstration est nécessaire pour les incrédules. Ce pianiste, comme tous les pianistes, était un Allemand. Allemand comme le grand Liszt et le grand Mendelssohn, Allemand comme Stebelt, Allemand comme Mozart et Dussek, Allemand comme Meyer, Allemand comme Doehler, Allemand comme Thalberg, comme Dreschock, comme Hiller, comme Leopold Mayer, comme Kramer, comme Zimmermann et Krabbener, comme Hertz, Wurtz, Carr, Wolf, Pixi, Clara Wieck, et particulièrement tous les Allemands. Quoique grand compositeur, Schmuck ne pouvait être que démonstrateur, tant son caractère se refusait à l'audace nécessaire à l'homme de génie pour se manifester en musique. La naïveté de beaucoup d'Allemands n'est pas continue, elle a cessé. Celle qui leur est restée à un certain âge est prise, comme on prend l'eau d'un canal, à la source de leur jeunesse, et ils s'en servent pour fertiliser leur succès en toutes choses. Science, art ou argent, en écartant d'eux la défiance. En France, quelques gens fins remplacent cette naïveté d'Allemagne par la bêtise de l'épicier parisien. Mais Schmuck avait gardé toute sa naïveté d'enfant, comme Ponce gardait sur lui les reliques de l'Empire, sans s'en douter. Ce véritable et noble Allemand était à la fois le spectacle et les spectateurs. Il se faisait de la musique à lui-même. Il habitait Paris, comme un rossignol habite sa forêt, et il y chantait seul de son espèce depuis 20 ans, jusqu'au moment où il rencontra dans Ponce un autre lui-même. Ponce et Schmuck avaient en abondance, l'un comme l'autre, dans le cœur et dans le caractère, ces enfantillages de sentimentalité qui distinguent les Allemands. Comme la passion des fleurs, comme l'adoration des effets naturels, qui les portent à planter de grosses bouteilles dans leur jardin pour voir en petit le paysage qu'ils ont en grand sous les yeux. Comme cette prédisposition aux recherches qui sait faire à un savant germanique sans lieu dans ses guêtres pour trouver une vérité qui le regarde en riant, assise à la marge du puits sous le jasmin de la cour, comme enfin ce besoin de prêter une signifiance psychique au rien de la création, qui produit les œuvres inexplicables de Jean-Paul Richter, les griseries imprimées d'Hoffmann et les garde-fous in folio que l'Allemagne met autour des questions les plus simples, creusées en manière d'abîme, au fond desquelles il ne se trouve qu'un Allemand. Catholiques tous deux, allant à la messe ensemble, ils accomplissaient leurs devoirs religieux, comme des enfants n'ayant jamais rien à dire à leur confesseur. Ils croyaient fermement que la musique, la langue du ciel, était aux idées et aux sentiments ce que les idées et les sentiments sont à la parole, et ils conversaient à l'infini sur ce système, en se répondant l'un à l'autre par des orgies de musique pour se démontrer à eux-mêmes leurs propres convictions, à la manière des amants. Schmuck était aussi distrait que Ponce était attentif. Si Ponce était collectionneur, Schmuck était rêveur. Celui-ci étudiait les belles choses morales, comme l'autre sauvait les belles choses matérielles. Ponce voyait et achetait une tasse de porcelaine, pendant le temps que Schmuck mettait à se moucher, en pensant à quelques motifs de Rossini, de Bellini, de Beethoven, de Mozart, et cherchant dans le monde des sentiments où pouvait se trouver l'origine ou la réplique de cette phrase musicale. Schmuck, dont les économies étaient administrées par la distraction, Ponce, prodigue par passion, arrivaient l'un et l'autre au même résultat, 0 dans la bourse à la Saint-Sylvestre de chaque année. Sans cette amitié, Ponce eût succombé peut-être à ses chagrins. Mais dès qu'il eut un cœur où décharger le sien, la vie devint supportable pour lui. La première fois qu'il exhala ses peines dans le cœur de Schmuck, le bon Allemand lui conseilla de vivre comme lui, de pain et de fromage, chez lui, plutôt que d'aller manger des dîners qu'on lui faisait payer si cher. Hélas, Ponce n'osa pas avouer à Schmuck que chez lui, le cœur et l'estomac étaient ennemis, que l'estomac s'accommodait de ce qui faisait souffrir le cœur, et qu'il lui fallait à tout prix un bon dîner à déguster, comme un homme galant et une maîtresse à lutiner. Avec le temps, Schmuck finit par comprendre Ponce, car il était trop allemand pour avoir la rapidité d'observation dont jouissent les Français. Et il n'en aima que mieux le pauvre Ponce. Rien ne fortifie l'amitié, comme lorsque, de deux amis, l'un se croit supérieur à l'autre. Un ange n'aurait-tu rien à dire en voyant Schmuck, quand il se frotta les mains au moment où il découvrit dans son ami l'intensité qu'avait prise la gourmandise. En effet, le lendemain, le bon Allemand orna le déjeuner de friandises qu'il alla chercher lui-même, et il eut soin d'en avoir tous les jours de nouvelles pour son ami, car depuis leur réunion, ils déjeunaient tous les jours ensemble au logis. Il ne faudrait pas connaître Paris pour imaginer que les deux amis eussent échappé à la raillerie parisienne, qui n'a jamais rien respecté. Schmuck et Ponce, en mariant leurs richesses et leurs misères, avaient eu l'idée économique de loger ensemble, et ils supportaient également le loyer d'un appartement fort inégalement partagé, situé dans une tranquille maison de la tranquille rue de Normandie au Marais. Comme ils sortaient souvent ensemble, qu'ils faisaient souvent les mêmes boulevards côte à côte, les flâneurs du quartier les avaient surnommés les deux casse-noisettes. Ce sobriquet dispense de donner ici le portrait de Schmuck, qui était à Ponce ce que la nourrice de Niobé, la fameuse statue du Vatican, est à la Vénus de la Tribune. Madame Cibot, la portière de cette maison, était le pivot sur lequel roulait le ménage des deux casse-noisettes. Mais elle joue un si grand rôle dans le drame qui dénoua cette double existence qu'il convient de réserver son portrait au moment de son entrée dans cette scène. Ce qui reste à dire sur le moral de ces deux êtres en est précisément le plus difficile à faire comprendre aux 99 centièmes des lecteurs dans la 47e année du 19e siècle. Probablement à cause du prodigieux développement financier produit par l'établissement des chemins de fer. C'est peu de choses et c'est beaucoup. En effet, il s'agit de donner une idée de la délicatesse excessive de ces deux cœurs. Empruntons une image aux railways, ne fût-ce que par façon de remboursement des emprunts qu'ils nous font. Aujourd'hui, les convois, en brûlant leurs rails, y broient d'imperceptibles grains de sable. Introduisez ce grain de sable invisible, pour les voyageurs, dans leurs reins. Ils ressentiront les douleurs de la plus affreuse maladie, la gravelle. On en meurt. Eh bien, ce qui, pour notre société lancée dans sa voie métallique avec une vitesse de locomotive, est le grain de sable invisible dont elle ne prend nul souci, ce grain, incessamment jeté dans les fibres de ces deux êtres, et à tout propos, leur causait comme une gravelle au cœur. D'une excessive tendresse aux douleurs d'autrui, chacun d'eux pleurait de son impuissance, et pour leurs propres sensations, ils étaient d'une finesse de sensitive qui arrivait à la maladie. La vieillesse, les spectacles continuels du drame humain, rien n'avait endurci ces deux âmes fraîches, enfantines et pures. Plus ces deux êtres allaient, plus vives étaient leurs souffrances intimes. Hélas, il en est ainsi chez les natures chastes, chez les penseurs tranquilles et chez les vrais poètes qui ne sont tombés dans aucun excès. Depuis la réunion de ces deux vieillards, leurs occupations, à peu près semblables, avaient pris cette allure fraternelle qui distingue à Paris les chevaux de fiacre. Levés vers les 7 heures du matin, en été comme en hiver, après leur déjeuner, ils allaient donner leurs leçons dans les pensionnats, où ils se suppléaient au besoin. Vers midi, Ponce se rendait à son théâtre quand une répétition l'y appelait, et il donnait à la flânerie tous ses instants de liberté. Puis les deux amis se retrouvaient le soir au théâtre où Ponce avait placé Schmuck. Voici comment. Au moment où Ponce rencontra Schmuck, il venait d'obtenir, sans l'avoir demandé, le bâton de maréchal des compositeurs inconnus, un bâton de chef d'orchestre. Grâce au comte Popinot, alors ministre, cette place fut stipulée pour le pauvre musicien au moment où ce héros bourgeois de la Révolution de juillet fit donner un privilège de théâtre à l'un de ses amis, dont rougit un parvenu, quand, roulant en voiture, il aperçoit dans Paris un ancien camarade de jeunesse, triste à pattes, sans sous-pieds, vêtu d'une redingote à teintes invraisemblables, et le nez à des affaires trop élevées pour des capitaux fuyards. Ancien commis-voyageur, cet ami, nommé Gaudissart, avait été jadis fort utile au succès de la grande maison Popinot. Popinot, devenu comte, devenu pair de France après avoir été 2 fois ministre, ne renia point l'illustre Gaudissart. Bien plus, il voulut mettre le voyageur en position de renouveler sa garde-robe et de remplir sa bourse. Car la politique, les vanités de la cour citoyenne n'avaient point gâté le cœur de cet ancien droguiste. Gaudissart, toujours fou des femmes, demanda le privilège d'un théâtre alors en faillite, et le ministre, en le lui donnant, eut soin de lui envoyer quelques vieux amateurs du beau sexe, assez riches pour créer une puissante commandite amoureuse de ce que cachent les maillots. Ponce, parasite de l'hôtel Popinot, fut un appoint du privilège. La compagnie Gaudissart, qui fit d'ailleurs fortune, eut en 1834 l'intention de réaliser au boulevard cette grande idée, un opéra pour le peuple. La musique des ballets et des pièces féeries exigeait un chef d'orchestre passable et quelque peu compositeur. L'administration à laquelle succédait la compagnie Gaudissart était depuis trop longtemps en faillite pour posséder un copiste. Ponce introduisit donc Schmuck au théâtre en qualité d'entrepreneur des copies, métier obscur qui veut de sérieuses connaissances musicales. Schmuck, par le conseil de Ponce, s'entendit avec le chef de ce service à l'opéra comique et n'en eut point les soins mécaniques. L'association de Schmuck et de Ponce produisit un résultat merveilleux. Schmuck, très fort comme tous les Allemands sur l'harmonie, soigna l'instrumentation dans les partitions dont le chant fut fait par Ponce. Quand les connaisseurs admirèrent quelques fraîches compositions qui servirent d'accompagnement à 2 ou 3 grandes pièces à succès, ils les expliquèrent par le mot « progrès » sans en chercher les auteurs. Ponce et Schmuck s'éclipsèrent dans la gloire, comme certaines personnes se noient dans leur baignoire. À Paris, surtout depuis 1830, personne n'arrive sans « pousser »,« quibus cumque vis », et très fort, une masse effrayante de concurrents. Il faut alors beaucoup trop de force dans les reins, et les deux amis avaient cette gravelle au cœur qui gêne tous les mouvements ambitieux. Ordinairement, Ponce se rendait à l'orchestre de son théâtre vers 8 heures, heure à laquelle se donnent les pièces en faveur et dont les ouvertures et les accompagnements exigeaient la tyrannie du bâton. Cette tolérance existe dans la plupart des petits théâtres. Mais Ponce était à cet égard d'autant plus à l'aise qu'il mettait dans ses rapports avec l'administration un grand désintéressement. Schmuck suppléait d'ailleurs Ponce au besoin. Avec le temps, la position de Schmuck à l'orchestre s'était consolidée. l'illustre Gaudissart avait reconnu, sans en rien dire, et la valeur et l'utilité du collaborateur de Ponce. On avait été obligé d'introduire à l'orchestre un piano comme au grand théâtre. Le piano, touché gratis par Schmucke, fut établi auprès du pupitre du chef d'orchestre, où se plaçait le surnuméraire volontaire. Quand on connut ce bon Allemand sans ambition ni prétention, il fut accepté par tous les musiciens. L'administration, pour un modique traitement, chargea Schmucke des instruments qui ne sont pas représentés dans l'orchestre des théâtres du boulevard, et qui sont souvent nécessaires, comme le piano, la viole d'amour, le cor anglais, le violoncelle, la harpe, les castagnettes de la cachoucha, les sonnettes et les inventions de Saxe, etc. Les Allemands, s'ils ne savent pas jouer des grands instruments de la liberté, savent jouer naturellement de tous les instruments de musique. Les deux vieux artistes, excessivement aimés au théâtre, y vivaient en philosophes. Ils s'étaient mis sur les yeux une taie pour ne jamais voir les mots inhérents à une troupe quand il s'y trouve un corps de ballet mêlé à des acteurs et des actrices. L'une des plus affreuses combinaisons que les nécessités de la recette aient créée pour le tourment des directeurs, des auteurs et des musiciens. Un grand respect des autres et de lui-même avait valu l'estime générale au bon et modeste Ponce. D'ailleurs, dans toute sphère, une vie limpide, une honnêteté sans tache, commandent une sorte d'admiration aux cœurs les plus mauvais. À Paris, une belle vertu a le succès d'un gros diamant, d'une curiosité rare. Pas un acteur, pas un auteur, pas une danseuse, quelque effrontée qu'elle pût être, ne se serait permis la moindre mystification ou quelque mauvaise plaisanterie contre Ponce ou contre son ami. Ponce se montrait quelquefois au foyer, mais Schmucke ne connaissait que le chemin souterrain qui menait de l'extérieur du théâtre à l'orchestre. Dans les entr'actes, quand il assistait à une représentation, le bon vieux Allemand se hasardait à regarder la salle et questionnait parfois la première flûte, un jeune homme né à Strasbourg, d'une famille allemande de Kell, sur les personnages excentriques dont sont presque toujours garnis les avant-scènes. Peu à peu, l'imagination enfantine de Schmucke, dont l'éducation sociale fut entreprise par cette flûte, admit l'existence fabuleuse de la Lorette, la possibilité des mariages au 13e arrondissement, les prodigalités d'un premier sujet et le commerce interlope des ouvreuses. Les innocences du vice parurent à ce digne homme le dernier mot des dépravations babyloniennes, et il y souriait comme à des arabesques chinoises. Les gens habiles doivent comprendre que Ponce et Schmucke étaient exploités, pour se servir d'un mot à la mode. Mais ce qu'ils perdirent en argent, ils le gagnèrent en considération, en bons procédés.